Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, ils ont du mal à quitter le studio ce matin. Cécile de Ménibus et Patrick Roger, leur invité Vincent Duluc, qui sont en train de partir. Voilà, ils quittent le studio et nous, on prend le relais pour être avec vous entre 10h et midi. On va parler médias, comme tous les matins, avec Rémi Pernelet et Gilles Gansman, qui arrive tranquillement avec son petit jus d'orange. Voilà, je vous dis tout. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook de l'émission de la radio, de Sud Radio. Voilà. Et à 11h, eh ben on va refaire un petit peu le match, comme dirait l'autre. On va parler du jugement aujourd'hui, de la comparution de Christophe de Tinger. On va parler de cette taxe carbone. Des députés aujourd'hui dans le Figaro signent une tribune pour qu'on retrouve une fiscalité afin de rétablir cette taxe carbone. Drôle de timing tout de même. Et puis le drapeau dans les écoles de la République. Qu'en pensez-vous, le drapeau français? 0826 300 300. Alors au sommaire de l'émission Média, eh bien, on aura la comédienne Émilie Dequesne avec nous pour une fiction très forte, Ma mère, le crabe et moi. C'est une soirée qui est consacrée au cancer du sein. Ne fuyez pas, ça peut faire peur. On peut se dire, j'ai pas envie de regarder ça. Mais vraiment, c'est un très très bon téléfilm. Ouais, il y a énormément d'humour, d'amour. C'est un message d'espoir et je pense que ça concerne beaucoup de monde. Une femme sur 8 aujourd'hui en France est atteinte d'un cancer du sein. Et il y aura un débat après avec Julien Bugier. Et puis, on va tout vous dire sur la Ligue du LOL. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. En tout cas, ça anime beaucoup les réseaux sociaux et c'est quand même un phénomène assez inquiétant. Ça rejoint le harcèlement sur Internet. On commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, le carton ?
Le carton, Valérie, oui, absolument. Le carton hier, c'est pour France 3. 4 293 000 téléspectateurs et 17,8% de part de marché pour la série avec Michel Bernier. Alors France 3 est en tête avec moins de 30 000 téléspectateurs d'avance sur TF1. 4 264 000
téléspectateurs. Gilles va nous
quitter. Non mais Gilles, je vous en prie, allez-y. J'ai même pas le temps de finir les audiences, vous voyez. 4 264 000 téléspectateurs et également 17,8% de part de marché pour SWAT, la série américaine. En fait, il y a quasi égalité entre France 3 et TF1. D'ailleurs, si on prend en compte la moyenne des 3 épisodes de SWAT et de La Stagiaire, TF1 repasse devant. Vous voyez, 3 733 000 téléspectateurs contre 3 382 000 téléspectateurs. Donc, c'est une très bonne soirée pour France 3 et TF1. Alors, les pronostics, si on veut être gentil, on dit que Gilles a gagné. Après, si on prend les 3 épisodes, il a perdu. Allez, on va dire qu'il a gagné. Voilà, parce que sinon, je pense que
j'ai encore un collapse. Vous aviez dit que ça passerait devant, effectivement. Donc voilà. Le Gadin.
Le Gadin, hier, c'est pour France 5. Seulement 413 000 téléspectateurs. 1,7% de part de marché pour le documentaire USA, la loi des armes, qui est diffusée dans le cadre du magazine Le Monde en face. En fait, c'est 350 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière. C'était un documentaire sur l'inceste. Et d'une façon générale, 300 000 téléspectateurs de moins que la moyenne de la case.
Ouais, donc pas terrible. Surprise ?
La surprise, c'est le bon score, voire le très bon score des deux documentaires La France d'entre-deux-guerres. Hier, sur France 2, on en parlait avec son réalisateur. 2 812 000 téléspectateurs et 11,7% de part de marché pour le premier volet sur les années 1919 à 1929. Il y a encore 2 770 000 téléspectateurs pour le deuxième volet. Donc c'est un excellent score pour ce documentaire qui réunissait énormément d'images d'archives. Ouais. Un très bon documentaire, même si je reviens sur l'impasse faite sur la montée de l'antisémitisme dans les années 30 en France, que je n'ai toujours pas comprise et que le réalisateur ne m'a pas expliqué hier.
Voilà, absolument.
Et puis je voudrais dire aussi un excellent score pour Quotidien hier sur TMC. 1 764 000 téléspectateurs pour Yann Barthès, qui recevait les femmes accusatrices de Denis Baupin. Ouais. Et puis Philippe Manœuvre, devant C'est à vous sur France 5, 1 354 000 téléspectateurs pour Anne-Elisabeth Lemoine. Elle recevait Raphaël Antoven, Alain Bougrain-Dubourg et Miss France.
Vaimalala.
C'est ça, Vaimalama, Chavez.
Bon, pas mal.
Et touche pas à moi, c'est pas mal, hein. Franchement, moi je l'ai écrit parce que sinon je l'aurais pas.
De mémoire.
Touche pas à mon poste sur C8 en troisième position. 1 230 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna, qui recevait Franck Dubosc et François-Xavier de Maison. Et c'est toujours, l'audience est toujours mesurée sur 45 minutes pour Touche pas à mon poste contre une heure pour Quotidien.
C'est incroyable ça.
Sinon,
et
l'audience
donc, si
serait
vous les mettez en face,
plus faible. Écoutez, ce serait.
Si
je l'ai fait, si on additionne la totalité des audiences. c'est 1 062 000 téléspectateurs pour
TPMP
et 1 318 000 téléspectateurs pour Quotidien.
Mais je comprends pas, c'est une arnaque de médiamétrie,
c'est une arnaque de la production. C'est-à-dire que C8 et TMC, parce que TMC fait pareil, il faut être honnête, TMC découpe Quotidien en deux parties, mais il garde une heure pour la deuxième partie. Et ce que faisait au départ, touche pas à mon poste, C8 a décidé de raccourcir et de ne garder que 45 minutes. Et évidemment, la fin de TPMP, c'est la meilleure audience. Donc, ça lui permet de rester au-dessus du 1,2 million. Sinon, je pense qu'il passerait sous le 1,2 million, ça c'est clair.
C'est des petits... Mais pourquoi Médiamétrie, pour le coup, ne s'intéresse pas à ce type de...
Non, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, c'est-à-dire que vous faites une fin, vous balancez un générique, vous passez de la pub et vous reprenez avec TPMP deuxième partie.
C'est une autre émission, en fait.
Médiamétrie ne peut pas décider tout seul de dire « je réunis les deux audiences ». Nous, oui.
Ouais, d'accord. Nous, on réunit les deux audiences et donc on voit que ce n'est pas exactement la même chose.
Et puis ça permet de mettre plus de publicité aussi, de couper des émissions comme ça. Vous pouvez le voir, parce qu'en bas, il y a le nom du réalisateur et du copyright.
Donc ces audiences ne veulent pas dire grand-chose, si je résume.
Elles veulent dire quand même, parce qu'il y a des chiffres, et que les chiffres, on ne les fait pas mentir, mais simplement...
Des chiffres qui sont des poires et des carottes et des choux.
Et absolument. Comment dire, c'est pour amortir la baisse... ou pour amplifier une hausse, parce que évidemment quand vous avez 40, les 45 ou les 40 dernières minutes qui sont très fortes, ça vous amplifie le très gros score et ça fait un effet d'annonce.
Allez, on va passer à notre auditeur Guillaume Dugard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez regardé hier soir?
Manchester United Paris Saint-Germain.
D'accord. Vous l'avez regardé où? Sur quelle chaîne?
Sur RMC Sport.
Ah d'accord, parce que vous savez qu'il y a eu un truc incroyable hier, où les fans ont pu voir sur le site,
le Facebook
du PSG, où ça a été diffusé en live.
Alors déjà, c'est pas très légal.
Si, c'était légal, c'était pas piraté, c'est-à-dire que les gens qui se sont branchés sur le Facebook du PSG ont vu le match en direct, donc c'est un bug plus qu'autre chose, alors vous avez pensé quoi de ce match? Vous étiez pessimiste au départ?
Avec toutes les blessures qui a côté parisien, effectivement, on pouvait s'inquiéter, et surtout de la bonne forme de Manchester United.
Ouais.
Mais il y a eu pas mal de chances côté parisien. Il y a eu deux blessures côté mancunien en première mi-temps qui ont favorisé le PSG. Puis ce carton rouge de Paul Pogba en deuxième mi-temps qui a pas mal favorisé le match, joueur parisien.
C'était à la fin du match, le carton rouge.
Vous seriez pas supporter de l'OM, dites-moi, Guillaume?
De Lyon.
franchement, j'ai senti
un peu de mauvaise foi.
Sans faire de mauvaise foi, il y a une partie de chance, mais la victoire globalement sur le terrain, elle est méritée.
Je pense qu'il y a plus de mérite que de chance quand même. Il faut être vraiment objectif, Guillaume.
Il y a eu des faits de match, mais c'est mérité.
On sera objectif aussi pour le match de Lyon, rassurez-vous.
Vous nous rappellerez. Vous nous rappellerez. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir appelé. Vous nous appeliez du Gard. Merci d'écouter Sud Radio. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, les talk-shows sont revenus sur le tag nazi sur le visage de Simone Veil. Et il y avait en plateau Raphaël Enthoven, invité de C'est à vous sur France 5. Et vous allez voir qu'il s'est réjoui que Simone Veil soit une migraine éternelle pour les abrutis.
C'est une migraine pour les abrutis. C'est une migraine éternelle depuis qu'elle est entrée au Panthéon. Elle est protégée par la République. C'est-à-dire que pour l'éternité, cette femme que tant de gens détestent, que ce soit son engagement européen, l'IVG ou bien l'Holocauste, cette personne-là que tant de gens détestent, et parfois ils la détestent pour les trois raisons, cette personne-là, cette migraine éternelle pour les imbéciles, demeure. Et là, et moi je préfère penser à ça, c'est-à-dire le fait qu'on s'en prenne à son image, et surtout l'occasion de montrer qu'on s'en est pris à son image, de réparer son image, de dire pourquoi cette image est importante, de convertir en pédagogie ce qui est le geste fou d'un nazillon. Le problème, encore une fois, c'est pas tellement les nazillons, ce sont les lâches qui tolèrent ça, qui cessent d'être vigilants ou qui s'y habituent. À partir du moment où on montre qu'on ne s'y habitue pas et où on fait entrer Simone Veil au Panthéon et où pour l'éternité elle regarde et elle surplombe les imbéciles qui la tiennent pour une femme dangereuse, toxique ou je ne sais pas quoi, ou une meurtrière d'enfants, c'est une bonne nouvelle.
Dans Quotidien, l'émission de TMC... L'équipe, c'est le même sujet. L'équipe de Yann Barthès a retrouvé le street artiste C215 qui a fait ces deux portraits. Et en fait, il est revenu sur place pour réparer et refaire le portrait. Écoutez.
Et ce qu'on voit là, malheureusement, cette croix gammée sur le visage de Simone Veil, ça s'inscrit dans une série d'actes antisémites depuis 48 heures. Ça vous inquiète d'autant plus ?
C'est sûr, c'est qu'il y a une émulation là actuellement pour ce type de marquage. Les types se sentent malins de faire ça. Moi, je pense que ma capacité, en tout cas, c'est de faire et de refaire ce portrait. Et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui et que je voulais le refaire publiquement pour montrer que ça servait à rien, que c'est peine perdue, les gars. Vos croix gammées sont inutiles.
Oui, Rémi.
Oui, non, c'était par rapport à ce que disait Raphaël Antoven. Je comprends ce qu'il dit. Moi, je reste surtout marqué par le caractère antisémite du tagage et que ce soit possible encore aujourd'hui, quoi. Une croix gammée sur Simone Veil. Bon, c'est un peu comme le sigle Juden sur le magasin. Voilà, on voit une résurgence quand même.
Je sais pas, il y avait Alexandre de Vecchio du Figaro hier qui dit « Je suis surpris qu'on soit surpris quelque part. » Il y a toujours eu ce fond d'antisémitisme en France. Il y a toujours eu des actes antisémites.
Je pense qu'on peut manier qu'il y a une progression très forte des actes antisémites. C'est indéniable. On peut dire que ça a toujours existé, mais ça s'est beaucoup plus caché qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se manifeste au grand jour. Comme quand même, il y a plus de 274
actes antisémites. 74% d'augmentation
d'actes antisémites dans l'année. Donc il y a une augmentation indéniable.
Il y a également aussi dans le même temps une augmentation des actes contre les églises. Il y en a eu 5 la semaine dernière.
Oui, je pense que la proportion n'est pas tout à fait égale.
Mais on ne va pas faire le compte. Mais ce que je veux dire, c'est que l'antisémitisme... on ne va pas faire le débat maintenant. Allez, Gilles.
Bon, je vois que mon zapping vous fait réagir. Voilà. Alain-Fabien Delon, épisode 3.
On change de sujet.
Après, j'envoie chier Yann Barthès. Après, j'envoie chier Laurent Ruquier.
Vous pourriez être quoi, là ? Vous pourriez d'autres mots.
Ah oui, excusez-moi. C'est en plus dire chier en ce moment.
Oui, c'est pas terrible. Attaquer.
Alain Fabien s'est levé tôt pour envoyer bip Sophie d'avance sur France 2. Alors qui, elle, a tenté de jouer la psychologue, vous voyez. Ça n'a pas du tout marché.
Mais qu'est-ce que vous aimeriez garder de lui ? Cette injonction de la race des seigneurs ?
Mais je vois pourquoi il faudrait que je fasse un choix de qu'est-ce qu'il faut que je garde. Hein. Je veux dire, il m'a fait, ma mère m'a fait, mes amis m'ont fait, et c'est très bien comme ça. J'ai pas besoin de choisir dans un catalogue qu'est-ce que j'ai envie de garder de lui et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la trappe. C'est quelqu'un de bon et de bien, et voilà, ça s'arrête à ça. Je vais pas faire l'analyse psychiatrique de mon papa en plateau.
Non, j'imagine, tout le monde n'a pas la chance ou la malchance, je sais pas comment il faut le qualifier, d'avoir comme père Alain Delon. J'imagine qu'on doit être à la fois archi-fier, on doit avoir envie de lui ressembler, tout en trouvant sa propre voie. J'imagine que c'est votre objectif aujourd'hui.
Franchement, je me pose pas tant la question que ça. Si vous voulez, c'est quelque chose qui pouvait me bouffer à l'époque, il y a des années, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me bloquer avec ce genre de pensées qui, je pense, sont négatives.
Je sais pas pourquoi on continue à inviter à la fin bien de long.
Je sais pas.
Il a pas grand chose à dire.
Il sort un livre.
Ça fait un peu brancher de son père en vérité. Oui, évidemment. Oui. Je vous propose l'antithèse avec un parent aimant et un enfant reconnaissant. Vous allez voir, ça fait du bien. Hier, C'est à vous sur France 5 recevait Vanessa Paradis. Alors elle adore sa fille, Lily Rose Depp, et c'est une vraie maman groupie.
Elle a beaucoup de talent, elle est d'une beauté rare, elle a de l'humour en plus, donc et elle est faite pour ça. Oui. Et elle a extrêmement bon goût, je vois tous les choix de films qu'elle a fait, elle va vraiment pas vers des choses évidentes, une très grande bosseuse. Et j'ai vu qu'elle était faite pour ça et donc je l'ai plutôt encouragée au moment où il fallait absolument qu'elle fasse ce métier, et elle est faite pour ce métier, donc je suis ravie pour elle.
Et aujourd'hui, vous êtes rassurée?
Oh, mais je suis rassurée parce que je la trouve vraiment extraordinaire. C'est pas la maman qui parle, c'est l'actrice que je suis. L'homme fidèle, j'étais carrément surprise de ce qu'elle fait dans le film. Elle est divine dans ce film.
De sa vie, sa fille, qu'elle est divine. Divine idylle entre eux.
Absolument.
Vous
avez des lettres. Allez, on se retrouve dans un instant avec la comédienne Émilie Dequesne pour cette fiction formidable, Ma mère, le crabe et moi, qui sera diffusée sur France 2 à 21h. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est l'actrice Émilie Dequesne. Bonjour Émilie Dequesne, merci Bonjour. D'être avec nous. Vous êtes là pour un téléfilm important, Ma mère, le crabe et moi, qui est diffusé ce soir sur France 2. C'est une soirée continue consacrée au cancer. Il y aura un débat animé par Julien Bugier juste derrière. Et donc, comment on vous a proposé ce scénario et vous l'avez accepté tout de suite? Alors, oui. C'est un sujet difficile. En général, les télévisions hésitent à aborder ce sujet.
Ah, c'est sûr que ce n'est pas évident de parler du cancer, encore moins du cancer du sein, encore moins de le situer au sein d'un foyer monoparental avec une mère et son ado. Enfin, voilà, ça pouvait être chargé. Mais quand j'ai reçu le scénario, je savais que c'était Yann Samuel qui allait le réaliser. Yann, c'est le réalisateur du merveilleux film Jeux d'enfants. Ouais. J'étais folle de joie déjà de me dire que éventuellement j'allais travailler avec lui. Et puis en fait, le scénario était écrit très joliment et de manière très émouvante. C'est-à-dire que je l'ai lu d'une traite. Je trouvais que c'était très juste dans la manière de raconter la relation mère-ado, parce que je la connais, relation. Je suis moi-même maman d'une ado. Et puis, ben voilà, c'est la vie. Dans la vie, on est confronté à des choses très dures et je trouvais qu'il situait cette épreuve de manière réaliste, mais aussi presque fabuleuse. Il y a un côté fable et conte de le point de vue d'Yann, la façon qu'il a de réaliser le film, fait que c'est presque une fable sur le cancer du sein. Évidemment, c'est un film, donc on ne cherche pas à coller à la réalité et à faire quelque chose de noir et sombre. Ça reste un film et très porteur d'espoir.
Et porteur d'espoir, et c'est ce qui est important, c'est encore une fois la relation entre cette mère et son adoré.
Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est très ancré dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment votre personnage dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans ses relations avec Tania, je crois.
C'est Tania, qui est jouée magnifiquement par Laurette Nissen. Ouais.
Formidable, absolument. Et donc, effectivement, on s'y voit. Enfin, je veux dire, toutes les scènes, ceux qui ont des ados, les filles avec le casque et qui n'écoutent pas, qui sont à côté. Et on rentre dans
Je suis en plein Snapchat à un moment dans une des scènes.
On rentre dans le détail, effectivement, de l'implication d'une telle maladie.
Oui, mais c'est ça
maladie.
Qui m'a bouleversée.
Ouais, absolument. Et c'est très émouvant, mais j'allais dire émouvant de façon comme ça, linéaire, en fait.
Positif,
y a pas du choc.
C'est vraiment dans
c'est
ça qui est très fort. Moi, c'est ça qui m'a bouleversée, c'est que je me suis immédiatement identifiée en lisant le scénario. On est tous pas à l'abri, malheureusement, de cette terrible maladie. Et on a tous un quotidien à gérer, une vie à gérer. Et oui, on sait tous qu'éventuellement, ça peut nous tomber sur la gueule, disons les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que la manière dont c'était raconté, très vite, je me suis complètement identifiée à ce personnage, à cette histoire. Et ça m'a bouleversée.
Oui, mais ce qui a vraiment changé, justement, avec ce que disait Rémi, par rapport au téléfilm qui est ancré dans notre époque, c'est que c'est vrai que maintenant, les ados, c'est presque des mini-adultes avant l'heure, et que ces mini-adultes, on leur dit des choses qu'on leur aurait peut-être pas dit il y a 10 ou 12 ans, on aurait dit j'ai une petite maladie ou j'ai quelque chose. Là, justement, vous affrontez le cancer à deux, presque.
Ben c'est ça. Mais déjà, les mini-adultes ou les grands ados, elles font partie d'une génération où, dès l'enfance... Avant, on ne parlait pas aux bébés, on pensait qu'ils n'avaient pas de sentiments, etc. Donc oui, forcément, la nouvelle génération n'est pas tout à fait la même qu'il y a quelques années. Effectivement, on considère les enfants et les adolescents autrement, et tant mieux. Maintenant, le personnage de Cathy, elle a un peu de mal au départ.
Elle a un petit peu de mal. C'est compliqué.
À annoncer sa maladie à sa fille.
Il y a quelque chose d'assez pédagogique tout de même, moi j'ai trouvé dans le téléfilm. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont données. Pour vous, c'était important aussi cette notion-là, c'est-à-dire de raconter et de dire des choses très précises sur la maladie. Mais en tout cas, transmettre, de dire que d'une certaine manière, ça lève le tabou de la maladie.
Oui, bien sûr, c'est important. Ouais. C'est important. Je trouvais que d'ancrer cette histoire dans le quotidien... Le film est régulièrement empreint d'une belle légèreté, je trouve, malgré tout. Et c'est pour moi, c'était important de lier la difficulté de la maladie.
Il y a pas mal de maladies. Hein.
Oui,
mais on est face, ce que veut dire Valérie, moi je suis entièrement d'accord, on est face aux vraies scènes, c'est-à-dire qu'il y a une ablation du sein et face à la réalité. Et ensuite, avec le traitement en chimio, la perte des cheveux et la scène où la maman a beaucoup de mal à surmonter ça. Et donc, on est face aux vraies choses, on montre les vraies choses quand même.
Oui, mais c'est important.
Oui.
C'est important. Après, non, mais je pense que la réalité dépassera toujours la
oui,
fiction.
Oui, bien sûr, mais on aurait pu faire quelque chose de plus édulcoré. Là, moi, j'ai trouvé que c'était assez concret quand même. Même si ça reste, encore une fois, assez, justement, par l'écriture, assez léger et qui a la relation entre la mère et la fille qui, finalement, domine le téléfilm. Hein.
C'est important. Et d'ailleurs, dans la manière dont l'adolescente va grandir, réagir, parce qu'elles vont grandir toutes les deux face à la maladie. C'est ça que je trouve beau dans cette histoire. C'est qu'au départ, je trouve que Cathy est bien plus maladroite et bien plus immature que sa fille, finalement.
Mmh. Et pour rebondir sur Valérie, il y a en effet une scène très cache où vous voyez, vous avez le sein, vous avez une ablation du sein, et on voit comment vous essayez une prothèse. Comment on se prépare à une scène comme ça?
Ou au tournage tout court?
Oui, au tournage tout court, parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, c'est un personnage qui travaille énormément l'esprit. Moi, je ne dormais pas très tranquille. Je me réveillais régulièrement la nuit et j'avais tendance à vouloir me palper le sein, etc. Et une grande majorité, je pense que toutes les femmes du tournage, c'était un tournage assez féminin d'ailleurs, étaient remuées et toutes préoccupées par leur santé et ont, à mon avis, très régulièrement, comme moi, pratiqué l'autopalpation en se disant « Bon, est-ce que tout va bien ?» Oui, ça remue, hein, ça ne laisse pas indemne.
Mais il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas savoir. Enfin, moi, je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes qui ne font pas l'examen parce qu'elles
ont
peur.
Erreur. C'est une erreur.
C'est le message qu'il faut aussi
c'est
faire passer.
C'est vraiment important.
C'est que c'est un des cancers, ça touche 8 femmes, une femme sur 8.
Oui, oui.
C'est de,
et ça... je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas. La mammographie ne fait pas mal. Ensuite, c'est suivi d'une échographie. S'il y a le moindre doute, on passe un IRM, ça ne fait pas mal. Enfin, ce sont des démarches qui sont absolument indolores et très très importantes.
Justement, quand on voit ce qui arrive dans le film, ça peut donner peur, en effet.
Oui, mais enfin, il y a un message d'espoir. Il vaut mieux ça que de mourir.
Oui, bien sûr.
Oui, donc moi, c'est je préfère être en vie et chauve qu'avec mes cheveux dans la tombe, quoi. Donc voilà. Non, c'est trop important. On sait tous que c'est le traitement du cancer qui fait mal. On le sait. C'est ça qui est difficile. C'est pas le cancer qui vous fait mal.
C'est l'annonce.
C'est ce qu'on utilise pour l'éradiquer. Ouais. Mais voilà, c'est important de se soigner et c'est important de prévoir et de contrôler. C'est très, très important.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Émilie Dequen pour parler de cette soirée consacrée donc au cancer du sein. Soirée continue, la vie avant tout. Ma mère, le crabe et moi, c'est le titre de cette fiction qui sera diffusée ce soir à 21h sur France 2. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le 10h midi, 10h-11h, les médias, l'événement ce soir, c'est la soirée continue sur France 2, cancer du sein, la vie avant tout. C'est à partir de 21h, il y aura un débat qui va être animé par Julien Bugier, mais avant la fiction, ma mère, le crabe et moi, dans lequel vous jouez, Émilie Dequen, vous jouez cette maman qui est atteinte d'un cancer du sein, qui l'annonce à son ado. Ce film, c'est la relation mère-ado face à la maladie. Je vous disais pendant la coupure que je trouvais très courageux de la part de France 2 d'aborder ce sujet. C'est un sujet qui a été très, très peu traité. Donc, en termes d'audience, je suis assez curieuse de voir parce que je trouve que c'est un pari et je pense qu'il peut être gagnant parce que ça concerne beaucoup de monde.
Bah, je l'espère parce qu'avant tout, le film est très émouvant. Ouais. Moi, je sais que j'aime voir des fictions qui me remuent. Ouais. Donc déjà, c'est un film qui peut être très agréable à regarder malgré tout.
Oui, parce que vous le disiez, il y a de la légèreté.
Il y a de la légèreté, il y a de l'émotion. Il y a de l'amour aussi. Mais il n'y a pas que la relation avec l'ado, il y a aussi la relation à l'homme, relation à son corps, et voilà.
Comment séduire avec un cancer.
Voilà. Oui, Rémi.
Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est assez positif. Enfin, dans le film, il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire effectivement de la lutte contre le combat, puis il y a l'histoire de l'ado elle-même, Tania, qui a une personnalité très forte, et un langage quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quand elle va voir son père qui est avec sa nouvelle compagne et qu'elle appelle sa nouvelle compagne Nabila. Enfin bon, il y a quand même des tas de choses qui sont assez sympas. Puis il y a la relation avec sa copine où la grande obsession, c'est de perdre sa virginité. Donc on est vraiment en même temps au cœur de tous les problèmes des ados. C'est pour ça que moi je suis persuadé que c'est tellement près de la vie que ça va bien, très bien marcher.
Ben, je l'espère parce que c'est vraiment un film touchant et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde.
Moi, je pense que c'est ça, il faut le dire à nos auditeurs, c'est de faire le pas. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous voyez le mot cancer, peut-être vous n'allez pas vous brancher et découvrir ce qu'il y a derrière.
Mais ma mère, le crabe et moi, et c'est très ma mère, justement.
C'est comme dans le titre. En fait, le titre est un petit peu humoristique et... en toute proportion gardée, il y a ce ton-là qui a été très très bien
amené
par le réalisateur, vous le disiez.
Oui, il a beaucoup d'humour. Franchement, c'est là, c'est pour ça qu'il est bouleversant ce film, c'est que les moments durs sont très durs, mais les moments légers d'amour et drôles sont très forts aussi, donc c'est vraiment bouleversant.
Vous avez voulu rencontrer des femmes atteintes de cancer du sein pour préparer ou pas
non,
du tout ?
Non, pas particulièrement. J'ai été confrontée au cancer du sein dans ma famille. Je l'ai vécu avec ma grand-mère, mais de loin, parce qu'elle vit en Belgique et elle va très bien, d'ailleurs, maintenant. Et c'est vrai que non, j'en ai pas éprouvé plus le besoin que ça. Je l'ai, pour travailler ce film, je me le suis approprié. Je me suis projetée dans cette éventualité, même si on n'a pas forcément envie de le faire. J'imaginais pas le vivre autrement.
Mmh. Et donc, ce téléfilm est en fait l'objet de la soirée continue de France 2, avec un débat ensuite avec Julien Bugier. Est-ce que vous pensez que c'est une cause qui est vraiment importante et qui mérite de faire l'objet d'un débat ? Il y a des choses, des tabous à lever, il y a des idées à faire passer auprès de
public. Il y en a énormément à faire passer. Déjà pour la personne qui est atteinte, je pense qu'une personne atteinte de cancer a besoin de savoir que la vie continue, qu'il doit continuer avec, qu'elle n'est pas forcément moche parce qu'elle perd ses cheveux. Donner de l'espoir à la personne atteinte, déjà, c'est lui donner de l'énergie, c'est déjà lui fournir une partie de son traitement.
Les personnes qui sont atteintes du cancer, elles ont... Et sont maltraitées par la société ou un peu rejetées. Il y a cette
frayeur.
Je ne
sais pas si elles le sont réellement, mais en tout cas, elles peuvent le ressentir. Ouais. C'est une image qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes.
Même s'il y a eu des progrès de fait depuis quelques années.
Bien sûr. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de confiance, qui ont besoin d'être entourées, mais aussi pour les proches, pour les gens qui entourent les personnes malades. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de manière absolument pas tabou, qu'il faut aborder de manière simple. Et je pense qu'on ne peut que aider les familles et les malades atteints pour aller mieux, oui.
Et vous, de voir votre reflet dans le miroir sans vos cheveux, ça vous a fait quoi ? Sourire au départ, j'imagine ?
Ça m'a fait drôle. Maintenant, voilà, c'était une prothèse, je suis en bonne santé, donc forcément, oui, j'ai eu la chance de pouvoir en rire et presque de trouver ça joli. Donc, parce que j'avais ce recul. Je tiens à dire à toutes les femmes qui souffrent du fait de perdre leurs cheveux, moi, j'ai pu rencontrer des femmes malades qui sont très, très belles sans leurs cheveux.
Il y a beaucoup de choses qui ont... En plus, maintenant, il y a beaucoup de perruques, qu'il y a eu énormément de progrès dans tout ce qui est accompagnement. Vous êtes plutôt une comédienne de cinéma, vous avez fait assez peu de téléfilms, il y a une raison.
J'en ai fait pas mal, en fait, comédienne de cinéma, pour moi, c'est un truc qui ne veut rien dire, je suis comédienne.
Mais vous avez joué plus au cinéma, alors je vais reprendre, vous avez plus joué au cinéma, quand on prend votre filmographie, au cinéma qu'à la télévision. Oui, vous avez raison, c'est complètement idiot de dire comédienne
de
télévision.
Je peux faire du théâtre, des films pour la télé.
Souvent au cinéma qu'à la télévision. Oui. On vous a vu à la télévision dans le très bon film La Consolation de Magali Richard Serrano. Vous jouiez le rôle de Flavie Flamand. Pareil, donc vous êtes comédienne, il n'y a pas de barrière télévision, cinéma.
J'essaye de faire ce que j'aime. Voilà.
Et comment vous choisissez les projets, ce qui vous plaît, ce qui vous touche ?
Ce qui me plaît, je sais au feeling, je ne calcule pas. J'ai pas du tout une mémoire encyclopédique des choses, j'ai qu'une mémoire émotionnelle de ce que j'ai pu voir dans ma vie, donc j'ai pas de référence, pas de calcul, j'y vais au feeling et j'ai besoin d'être touchée. Si ça me touche pas, je peux pas y aller.
Ouais. Mais après, il y a la profession aussi. Parfois, c'est compliqué quand on fait de la télé de revenir au cinéma, alors ça a un peu changé. Mais c'est vrai que dans la profession, c'est un peu... Ça dépend.
Peut-être. En tout cas, alors, ça veut dire que je ne vais plus faire de cinéma parce que ces derniers temps, j'ai fait énormément de télé.
Ah, vous voyez
Non, mais j'en sais rien. Non, c'est pour aller dans votre sens.
Oui, je sais bien.
Mais non, j'ai des projets pour le cinéma. Mais là, par exemple, je prépare un projet pour la télévision. Donc, en plus de ça, je suis assez dingue de séries.
Alors, vous regardez quoi à la télé ?
Beaucoup de séries, j'avoue. Je suis
la dernière en date qui vous
J'attends avec impatience que reprenne The Handmaid's Tale. Ça, ah, j'en suis complètement dingue.
La servante écarlate, pour le titre en français.
Ouais. Oui, ça vraiment.
Vous regardez les séries françaises, Engrenage, c'est ce type de série ou pas vraiment?
J'avoue que j'ai beaucoup regardé Mafiosa, mais en même temps, mon mari est comédien et est dans la série. Le Bureau des légendes, que je trouve fabuleux. Il y a beaucoup de séries qui sont de très très bonne qualité. Maintenant, c'est mondial, la série.
Vous avez le temps de la regarder, la télé?
Ça dépend.
Votre fille, elle regarde quoi et vous la quel rapport vous avez
Ah non, pas la télé-réalité.
Elle regarde quoi et est-ce que vous êtes vigilante à ce qu'elle regarde?
Elle regarde. Bon, on est abonné à tout ce à quoi on peut être abonné à la maison. Et elle regarde beaucoup Netflix, évidemment. Ouais. Et en revanche, elle est du genre à regarder plusieurs fois la même série. C'est-à-dire que je pense qu'elle a dû voir Friends et How I Met Your Mother à peu près 100 fois. Voilà, mais elle est assez curieuse de tout ce qui se fait et elle va au cinéma.
Elle connaît pas Carla des Anges.
Ah non.
Ah ben c'est une grande.
Ah, je pensais que c'était un titre de film. Ah, non. Qu'est-ce que c'est? D'accord.
Vous êtes hors sol là, c'est quand même.
Carla et Kevin des Anges. Oh là là, pas de culture, c'est incroyable.
Et donc ni vous ni personne chez vous ne regardez, je sais pas, les talk-shows quotidiens,
The Voice.
La télé.
Ah, The Voice, bien sûr, mon mari et moi on adore.
Ah.
On adore surtout les auditions à l'aveugle. Voilà. En fait, c'est ce qui m'amuse le plus.
Bah oui. Parce que vous vous mettez à la place.
Bah forcément.
Julien Clerc dans le jury, il vous a plu.
Ah, ça c'est chouette. Ah ouais. Monsieur Julien Clerc. Quoi,
absolument.
J'adore.
Rock Cancer du sein, donc soirée spéciale ce soir sur France 2 avec donc cette fiction que je vous encourage à regarder, dépasser l'idée du cancer. Parce
qu'on rit beaucoup aussi.
Oui, mais c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ma mère, le crabe et moi, il n'y a pas le mot cancer dans le titre.
Bah
mais en tout cas, vous faites une formidable. Vous interprétez une formidable.
Cathy,
donc maman avec ce cancer du sein, avec votre ado, et puis plein de choses à vivre. Et je pense dans ce film que beaucoup de gens vont se retrouver, en tout cas quand on est face à la maladie. Et comme vous le dites, le plus dur c'est l'annonce, c'est recevoir cette information, et puis après, c'est un film porteur d'espoir en fait. Fiction,
oui, je trouve. Mais c'est vraiment, je trouve que ce film fait du bien.
C'est une scène forte quand vous êtes avec l'ado pour l'annoncer.
Dans le magasin.
Ma mère, le crabe et moi.
En plein essayage.
Ma mère, le crabe et moi, c'est ce soir à 21h. Donc, soirée continue avec Julien Bugier juste après pour un débat. Merci beaucoup, Émilie Dequenne, d'être venue ce matin sur Sud Radio. Et puis, on va vous regarder ce soir, bien évidemment.
Merci à vous.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h-11h, les médias. Et alors, ce qui agite en ce moment la toile, et plus que la toile, de nombreuses rédactions à Paris, en tout cas celle de Libération, c'est ce qu'on appelle l'affaire de la Ligue du LOL. Alors, l'affaire de la Ligue du LOL, c'est un groupe Facebook qui a été créé en 2000, vers la fin des années 2000,
en 2009,
avec des blogueurs, avec des journalistes plutôt médias, plutôt nouvelles technologies, publicitaires, c'est ça Rémi?
Oui, c'est ça, en fait, c'est au départ Vincent Glade, qui est journaliste qui était à l'époque à 20 minutes, je pense, où il s'occupait de justement de tout ce qui était le web, qui a créé cette Ligue du LOL, un groupe Facebook privé, donc où les personnes, il acceptait ou pas, les personnes, et puis les personnes échangeaient entre eux un certain nombre de points de vue et puis un certain nombre d'avis, y compris des avis sur les gens. Et ensuite, ça je pense regrouper peut-être de plus en plus de monde, on pense une trentaine, une quarantaine de participants, et essentiellement des hommes, peut-être d'après Vincent Glade, 3 ou 4 femmes.
Mais principalement des hommes, type aujourd'hui, qui sont des gens, pour donner un peu le profil, qui sont à Libération, aux Inrecuptibles, donc des gens qui sont plutôt dans une presse dite de gauche, et qui se sont mis à harceler des gens, mais harceler de façon extrêmement violente.
Il faut rappeler qu'à l'époque, si vous voulez, c'était les débuts de Twitter. Et les débuts de Twitter, il y avait un certain nombre de journalistes qui se sont trouvés à l'avant-garde de Twitter, et c'est vrai, Vincent Glade et d'autres, il y avait Christophe Caron, qui était, par exemple, rédacteur en chef internet de Voici, qui ensuite est allé sur Canal+.
Vincent Glade étant, s'occupant aussi sur Libération de tout ce qui est web.
Aujourd'hui, mais pas à l'époque.
Oui.
Et donc, si vous voulez, c'était des journalistes qui étaient vraiment à l'avant-garde, assez influents, et je pense qu'ils se sont sentis tout à fait tout puissant et ont commencé à dire, à balancer des tweets qui étaient de plus en plus de tweets soi-disant humoristiques, mais qui finalement disaient un peu ce qu'ils pensaient en bien ou en mal. En gros, c'est eux qui avaient la loi et qui disaient en bien ou en mal ce qu'il fallait penser des gens et qui allaient après jusqu'à complètement les, des critiques extrêmement dures.
Il faut juste dire une chose, et c'est aussi le débat actuel, c'est qu'ils ont créé des comptes Twitter derrière lesquels ils se cachaient. Et on ne pouvait pas imaginer que des journalistes qui ont une certaine, on va dire, qui sont intellectuels, qui sont dans une certaine mouvance, pouvaient être derrière ces Twitter. Les Twitter derrière lesquels se cachait Vincent Glade, il a créé le Twitter Fous la merde, il a tweeté le Twitter.com langue de pute, le Twitter tweet poubelle, le Twitter Bridge Clash, les autres de ce groupement-là a même avait fait un tweet Guy Berenbaum pour insulter le journaliste. Et donc, il y avait plein de tweets qu'ils avaient créés.
Ce n'est pas des opinions sur les gens, Rémi. C'est des insultes, c'est des agressions agressions sexuelles, des choses vulgaires, grossières. Et il y a le témoignage dans Paris Match de Florence Desrussols qui raconte qu'elle a été harcelée, qu'elle en a fait une dépression, qu'elle a fermé son compte Twitter, qu'elle ne pouvait plus ouvrir son ordinateur. Bref, c'est allé assez loin.
Ce qui est étonnant, on va dire, c'est que donc là, on est en 2009, 2010, et là, on est en 2019, et c'est seulement il y a une semaine qu'un article dans Libération, Check News, a révélé en fait cette histoire. Enfin, a révélé. Il y avait pas mal de gens qui le savaient. Il y avait déjà eu des plaintes qui avaient été déposées, mais qui avaient toujours été classées sans suite, j'allais dire. Et donc, c'est seulement maintenant que cette affaire a trouvé un relais médiatique. Pour des raisons. Ce matin, j'entendais un auditeur sur Sud Radio qui demandait, une auditrice qui disait, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ça sort maintenant ?
Et
c'est vrai que la question se pose, pourquoi maintenant ? Quelle est la conjonction de
Il y a un moment où ça sort. Il y a une jeune femme, Léa Lejeune, qui dit, pourquoi n'avons-nous pas parlé pendant toutes ces années ? Parce que ces gens-là avaient des postes importants, étaient amis avec des rédacteurs en chef influents ou des personnes à poste de direction, à Libération, aux Inroc, dans la presse People ou Magazine, ceux qui sont cités parmi les membres de la Ligue LOL, précaires, nous avions peur de perdre nos emplois. Donc,
c'est une forme d'omerta.
C'est une forme d'omerta. Et en fait, une fois qu'il y a quelqu'un qui parle, c'est un petit peu comme chez les Verts, la boîte de Pandore s'ouvre.
Vous parliez de la journaliste, j'ai un trou,
Capucine Piau.
Capucine Piau, et elle a témoigné avant-hier, c'était dans Quotidien.
C'est arrivé petit à petit, ça a été des tweets qui sont arrivés, en fait des gens qui sortaient de ma sphère, en tout cas pas des lectrices de mon blog par exemple, des journalistes qui rebondissaient, qui trouvaient que j'étais peut-être pas très intelligente, d'autres qui trouvaient que j'étais pas assez jolie pour être journaliste beauté ou blogueuse beauté. Et je me suis adressée à certains d'entre eux de visu en leur disant que ça me heurtait, que j'en avais marre, et ils m'ont répondu qu'ils n'aimaient pas ma tronche et qu'il fallait que ça continue. Ça a complètement sapé le peu de confiance en moi que j'avais. J'ai fini par un parcours psy, j'ai vécu des choses très difficiles. J'ai la voix qui chevrotte aujourd'hui quand je vous en parle. Je me suis pas aimée pendant très longtemps.
Alors, à la question pourquoi ça sort maintenant, une des explications, c'est que Vincent Glade, qui est très présent sur les réseaux sociaux, a fait énormément de tweets sur les gilets jaunes. Il a été jugé donneur de leçons. Et donc, il y a eu cette... est-ce que c'est un règlement de compte, oui ou non ? Est-ce que la question de savoir pourquoi ça sort maintenant est importante ? Importante ? La réalité, elle est quand même assez terrifiante de voir, quand on lit les témoignages de ceux qui ont été harcelés. Il y a eu aussi des blagues à connotation homophobe pour un certain nombre d'hommes. Donc là, pour l'instant, il y a eu mise à pied à Libération en attendant une mise à pied conservatoire. Et
personnes qui ont été mises à pied à Libération.
Trois au Huffington Post qui ont carrément été licenciés.
Ouais, et Christophe Caron, qui est rédacteur en chef de Slate, qui est mis en cause également, a juste expliqué qu'ils ont tous présenté des excuses, et il a juste expliqué qu'ils se retiraient de la gestion éditoriale de tout ce qui couvrait cette affaire. Mmh. Bon. c'est un peu...
Alors bon, est-ce que c'est une affaire de microcosme parisien ou pas ? Non, ça dit une chose, ça dit des choses sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, en fait, ouais. Moi, ça me fait penser à toutes les affaires d'harcèlement. Il y a beaucoup de téléfilms qui sont faits là-dessus, dans les écoles, dans les lycées, qui aboutissent à des drames. Hein. Il y a des enfants qui se suicident, il y a des enfants qui sont... On en a reçu, qui sont gravement mutilés. Et donc, c'est un peu ce phénomène de meute, et c'est effrayant quand même, je suis entièrement d'accord. C'est effrayant.
Parce que... grave.
Ouais. Ouais. Allez, on va passer à d'autres informations sur Koh-Lanta. Il y a eu la conférence de presse de Koh-Lanta cette semaine.
Hier, il y a eu la conférence de presse de Koh-Lanta. Alors, il va y avoir plein de nouveautés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Koh-Lanta, parce que vous savez qu'il y avait eu un petit incident pour la diffusion de la saison qui devait être l'année dernière. Donc, ils reviennent après un an.
Il y a eu quand même une tentative de viol. Vous pouvez pas dire un petit incident.
Le tournage a été interrompu. Donc c'est pas un petit incident.
C'est un gros problème. Voilà.
Donc ce qui a été annoncé après ces un an d'absence, c'est le grand retour sur TF1. C'est la 20e saison pour Les Anonymes. C'est toujours évidemment présenté par Denis Brugnard. Alors plein de nouveautés. Il va avoir 3 équipes désormais. Fini les rouges contre les jaunes. On rajoute les bleus. Il y a 3 équipes qui vont s'affronter, et il va avoir des capitaines d'équipe, et ces capitaines vont être sélectionnés. La première épreuve qu'on va voir dans le premier épisode, c'est les poteaux, l'épreuve qu'on voyait à la fin. Tout le monde va être sur des poteaux, et les 3 derniers qui vont rester vont devenir les chefs, un chef des bleus, un chef des rouges et un chef des jaunes.
Parce que là, il y a 3 équipes, c'est arrivé une fois déjà, mais ils remettent le principe des 3 équipes.
Ouais. Absolument, sur 3 îles différentes.
Et déjà, ça démarre fort, quand vous avez les gens sur les poteaux.
Mais je vais vous raconter encore mieux. Quand ils vont être élus capitaines, ils vont avoir un bracelet d'immunité pour eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas transmettre et qui est à eux. Et s'ils donnent lors d'un conseil, ils mettent en jeu leur bracelet, ils perdent leur statut de capitaine. Et l'équipe, entre eux, devra revoter qui sera le capitaine.
C'est compliqué pour moi.
Ce que j'ai vu, c'est
qu'il y avait des invités surprises qui viendront au conseil.
Pas du tout au conseil. Les 2 autres capitaines... En fait, les capitaines des rouges et le capitaine des bleus, si c'est le conseil des jaunes, pourront assister au conseil des autres équipes et savoir donc...
Et rapporter à leurs amis ce qui s'est passé. Voilà.
Oh là là, Laura leur a fait
un... Et le casting, apparemment, est un casting de sportifs d'assez haut niveau. Il y a une championne de kitesurf, une championne de foot.
Il y a pas mal de monde,
absolument. Il y a des gens, en tout cas, avec un profil assez intéressant. Prof de parachute, cascadeur, etc. Donc, ça promet. Une saison qui promet.
Oh, ils ont bien...
Il va commencer quand ? Il va commencer en...
Alors,
sait qu'entre la conférence de presse et le début de l'antenne, il y a en général 3 semaines
exactement,
ou un mois.
Ça pas été
dans
communiqué.
Quelques semaines, dit TF1.
Ouais, ça n'a pas été communiqué hier, dans ceux du mardi, donc je pense que ça va être mardi prochain. Donc, ça va être début avril, je pense, fin mars, début avril.
Allez, on va passer aux 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, 30 secondes pour convaincre. C'est Philippe Godet. Alors c'est intéressant, en fait, c'est dans Enquête Exclusive Dimanche. Enquête Exclusive Dimanche va consacrer un documentaire au Mali. Ils ont été dans la base de Gao, et dans la base de Gao, ils ont suivi ce qu'on appelle en fait
L'opération Barkhane.
L'opération Barkhane, et en fait ils ont suivi en fait ceux qui sont autour de l'armée, les cuisiniers, les boulangers, tout le staff logistique, et c'est un document assez exceptionnel. Et on a donné 30 secondes au réalisateur pour nous convaincre.
Alors, dans ce documentaire tourné au Mali, ce que vous allez découvrir, c'est le défi quotidien de militaires français qu'on voit très rarement à la télévision. Ce sont les soldats du soutien et de la logistique. En fait, tous ceux qui assurent côté coulisses la réussite d'une opération militaire. Et en plein désert, quand il fait 50 degrés et que la menace terroriste est permanente, c'est une vraie gageure. Ces militaires, ils sont le nerf de la guerre et ils sont exposés au même titre que les combattants de première ligne. Ils payent d'ailleurs un lourd tribut au nombre de blessés et de morts, et ce reportage leur rend aussi hommage.
Voilà, donc ça, ce sera dimanche à 23h10, donc opération Barkhane au Mali.
Alors, il faut regarder, c'est assez étonnant.
Ce soir à la télévision, Esprit criminel, Ma mère, le crabe et moi, donc je pense que ça peut mobiliser pas mal de monde, ce téléfilm formidable, Émilie Dequen, qui est vraiment une formidable comédienne. Les victoires de la musique, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, ça va être votre gadin de demain. J'ai envie de vous dire ça.
Ah bon ?
Mais c'est un, il va y avoir des beaux moments, c'est ça que je veux dire.
Top Chef.
Il y a Roberto Alagna.
Et Otage. Alors moi, si vous avez Canal+, je vous conseille vraiment de regarder Otage. C'est une série absolument remarquable. Une série, un documentaire exceptionnel. Ma mère, le crabe et moi, c'est assez, c'est formidable. C'est gai, c'est plein d'espoir.
Il y a la télé de Laurent Gérard sur C8 aussi.
Ah, ça, ça marche pas mal. Top Chef. Épisode 2. Donc il y a du.
Qui a bien fonctionné la semaine dernière, Top Chef, hein, pour le retour.
Et ben, c'est
évident. Peut-être TF1 quand même, devant. Allez,
et ben moi, je
France, France 2, 2, M6.
Et ben moi, je vous dis France 2, M6.
Avant TF1 ?
Ouais.
Non.
Non.
France 2, M6.
Moi, je dis Ma mère, le crabe et moi, ça peut arriver en tête. Esprit criminel après et Top Chef après. Voilà. Eh bien, merci. Et on se retrouve, dans quelques instants pour commenter l'actualité. On va parler du boxeur Christophe de Tinger qui doit être jugé aujourd'hui, rétablir la taxe carbone, le drapeau français dans les écoles. On en parle avec vous, 0826-300-300. Et nous, on se retrouve demain.
Avec Jean-Luc Creschmann.
Jean-Luc Creschmann pour Matéi.
Mais oui, il revient à la fiction.
Absolument. À tout de suite.